Alors, première épître de Pierre au chapitre 2, et puis on avait fini au verset 12. Alors, je vous rappelle juste la vue d'ensemble de ce chapitre. Hein. Les versets 1 à 3, les croyants élus et sanctifiés sont des enfants en pleine croissance qui ont besoin du lait pur de la parole de Dieu. Les versets 4 à 10, ils sont aussi des pierres vivantes qui servent à la construction progressive d'un édifice spirituel. Les versets 11 à 12, ils sont des voyageurs qui traversent un pays étranger. Hein. On est des pèlerins. Ce thème, on va le retrouver dans la suite du chapitre. Et puis, les versets 13 à 25, ceux qu'on va étudier ce soir. Soumission aux autorités, au travail, même si l'on souffre injustement, comme à l'image du Christ. Mais soumission avant tout à Dieu. Donc, nous n'avons pas à tout accepter de la part de nos supérieurs. Hein. On va voir un petit peu ça en détail dans la suite des versets. Donc, on peut commencer en lisant peut-être chacun deux versets. On peut aller jusqu'à la fin du chapitre, même comme ça on aura déjà une vue d'ensemble de ce qu'on devrait étudier ce soir.
Ah, depuis le 13, alors. Mm-hmm. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouvernement parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien.
Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Conduisez-vous en homme libre, non pour faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais pour agir comme des serviteurs de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, rendez honneur au roi.
Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres et non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu.
En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces.
Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris.
Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes.
Merci. Alors, dans toute la première partie de ce passage qu'on vient de lire, ces versets nous parlent de soumission aux autorités, aux maîtres. Mais attention de prendre ces versets avec sagesse et non de penser que c'est une ligne de conduite à suivre en toutes circonstances. Parce que si c'est le cas, alors ces versets pourraient être utilisés pour accréditer même les tyrans. Hein. On va voir d'ailleurs dans la suite du partage de cette soirée quelle lecture on peut en faire. Alors, on a une première partie, peut-être on peut commenter ça. Déjà, les versets 13 à 17 par rapport à la soumission aux autorités. soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Bon, on n'a pas droit, nous, à honorer, hein, mais on a un président. Bon, des fois, on ne se rappelle même pas son nom, vu qu'il y a une requête chaque année.
C'est vrai qu'on peut être fâché contre les autorités par rapport à des décisions qui sont prises. On peut pas forcément partager les décisions qui sont prises plutôt par dans certains cas, mais ça ne met pas en cause toutes les lois qui sont sur lesquelles on doit se soumettre dans nos sociétés. Et puis même au niveau je dis la note qui disent qu'il y a certaines personnes qui vivent dans des situations de gouvernement totalitaire. C'est ce que tu disais, mais là encore une fois, on doit être soumis pour autant que notre conscience le permette. C'est clair que si notre conscience ne le permet pas, parce qu'on nous demande d'adorer l'Antichrist plutôt que, etc. Alors là, c'est clair qu'on peut être désobéissant, avoir une désobéissance civique ou civile, je sais pas comment on peut dire. Voilà. Moi, je le vois comme ça, disons aussi. Hein.
On pourra partager deux, trois choses, parce que c'est un thème qui est quand même assez vaste. Hein. On pourra peut-être partager un peu des expériences aussi, que ce soit au niveau de l'autorité, et c'est le point qu'on regarde actuellement, de l'autorité civile, mais aussi au niveau professionnel. Hein. Je pense que là, il y a aussi une ligne de conduite. Mais il faut se rappeler aussi le contexte de l'Épître. Quel était un des buts principaux de l'Épître, c'était de préparer le peuple de Dieu à la persécution à venir. Hein. Pierre enseigne aussi dans un contexte précis. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une ligne de conduite pour nous aujourd'hui, hein, ça explique aussi qu'il voulait éviter des embrasements inutiles de l'Église. Avant que le véritable feu de l'adversaire arrive. Hein. Je sais pas, hein, c'est comme si vous êtes en guerre, vous évitez de la nuit, et puis qu'il y a des bombardiers qui vous survolent, vous évitez de mettre les spots allumés partout. Hein. Ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, ils devaient se calfeutrer la nuit, hein, et puis on fermait les volets, on éteignait la lumière, hein, même en Suisse. Hein,
oui, il fallait tout fermer.
Donc même en Suisse, oui. Hein, c'est vrai qu'il fallait éviter d'attirer l'ennemi dans sa direction. Et c'était aussi quand même un peu cet arrière-plan qui était là présent quand l'apôtre Pierre a écrit. Et ça nous donne aussi de pouvoir ne pas prendre tout à la lettre. Hein, parce que justement, comme je le disais avant, autrement, il y a le risque d'accepter les tyrans et puis que le chrétien ne serait que là pour se soumettre aux autorités.
Mais je me demande, dans son contexte, si les révolutions, c'était juste, même celles qui paraissent fondées. Mais je me demande en définitive si c'était juste, si c'est pas une autre voie que le peuple aurait dû prendre. Je pose la question, je me suis déjà posé la question.
Bon, il y a juste une chose, c'est que dans la note ici, je ne sais pas, c'est peut-être pas vrai, mais il parle que Pierre appelle donc à se soumettre son sel de l'Empire romain à l'époque de Néron, connu pour sa cruauté. Il n'invite évidemment pas au compromis. Lui-même a répondu au grand prêtre des années auparavant qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans la plupart des aspects de la vie quotidienne, il est possible, je vous lis, hein, néanmoins il est possible, préférable de vivre en accord avec la loi en vigueur dans le pays. Aujourd'hui, certains pays vivent en paix, que d'autres vivent sous des régimes totalitaires. Tous devraient collaborer avec les dirigeants dans la mesure où leur conscience leur permet. C'est ce que je disais avant.
Oui, c'était la persécution à venir sous Néron.
Voilà.
Oui, c'était ça.
Alors, on peut imaginer qu'effectivement, ils préparaient un peu les personnes pour ne pas faire une révolution, comme tu disais, ou se révolter, justement. Attends, moi, je pense à quelque chose de beaucoup plus encore, qui va encore plus loin dans ce domaine-là. C'est les persécutions des Huguenots, par exemple, peut-être pas les Huguenots, mais quand il y a eu la Saint-Barthélemy, qui est les persécutions des Huguenots, effectivement, avec les hussards, etc. Il y a à un moment donné, les
qui venaient de l'aide du roi de l'époque.
Donc ils sont fait persécuter, puis à un moment donné, les jeunes, ils ont commencé à prendre des armes pour se révolter. Alors, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce qu'à force de se faire brimer, puis de se faire assassiner, il faut voir le contexte. On n'a pas vécu ça, on le vivra, j'espère pas, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser des questions. En tout cas, voilà, ça extrapole un petit peu. On n'est pas vraiment.
Non, on est en plein dans le sujet.
Un petit peu dans le sujet.
On est bien dans le sujet.
Voilà.
Mais pour en revenir à ce que disait la sœur Anna, si on regarde bien, on a vécu pendant environ 2000 ans, pour ne pas aller plus loin en arrière, sous l'époque des rois, Mais quand il y a eu la révolution en France, c'est là que ça a commencé, et puis après aux États-Unis, tous ces rois qui dirigeaient sur la base de certains ministres qu'ils avaient, ça a disparu, et puis ils ont introduit gentiment cette fameuse démocratie que nous avons à peu près dans tous les pays du monde, où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et tout le monde l'accepte, parce que tous les peuples qui sont dirigés maintenant par des gouvernements, il n'y a plus de rois, il n'y a plus de comtes ou de barons ou de comtesses. Maintenant, c'est tout sur le régime de la démocratie avec des gouvernements. Mais tout le monde l'accepte, chrétien, pas chrétien, il n'y a pas le choix. C'est ça. Donc, on est sorti un peu du carcan qu'on a eu pendant, qu'on a eu pendant 2000 ans, pour ne pas aller plus loin à l'époque des pharaons et plus loin. Mais déjà, si on prend depuis la naissance du Seigneur, où il n'y a eu que des rois pratiquement, si on arrive au Moyen-Âge et puis à la Renaissance, c'était des rois avec comtes, barons, comtesses, tout ça, avec des gouvernements, c'était des secteurs pratiquement dans tous les pays, comme on prend en France. Puis après, il y a eu ces révolutions qui se sont enchaînées avec la, en 1879, je ne sais pas combien, là, en France, là, il y a eu la Bastille qui a été prise. Ben là, on a eu une coupure par rapport au régime qu'on a toujours eu, que l'humanité a toujours eu de vivre, parce que ça a été une cassure. Ensuite, si on lit après, indépendamment de ça, je vous relis les premiers versets du 18. « Serviteurs, soumettez-vous avec plus de grand respect à vos maîtres. » Donc, c'est bien dit, les maîtres, ça peut être aussi bien les rois que tous les nouveaux gouvernements que nous vivons actuellement. C'est un peu nos maîtres, c'est en gros ceux qui nous dirigent. « Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, ça on a bien compris, c'est là, c'est magnifique, hein, d'obéir et de les suivre, mais ce qui est marqué ensuite, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. » Parce que le problème, il nous invite à obéir même à ceux-là, qui n'ont pas les mêmes visions que nous, et qu'on... Parce que ceux qui ont l'esprit pervers, ils n'ont pas la vision du Seigneur et de Dieu. Donc, il nous recommande aussi de nous soumettre à ces gens-là.
J'ai la traduction qui est un caractère difficile.
Ouais, voilà.
Et là, c'est marqué pervers, hein, dans la... dans la version seconde. Hein.
Mais là, c'est aussi la seconde, mais la plus vieille. Ah, celui qui est un caractère difficile.
Ah,
on comprend mieux un caractère difficile que pervers.
Ouais. Mais ce qu'il faut quand même voir là, c'est que cette parole est adressée aux esclaves, parce qu'il y avait des esclaves chrétiens à l'époque.
Donc,
il n'y a plus d'esclaves.
Mais ce qui est quand même étonnant par rapport aux esclaves aussi, c'est que le
il a mis le soulier en or.
A jamais condamné l'esclavage.
Non. Voilà. Non. Parce que nous, maintenant, de nos temps,
ça a toujours été.
On parle d'esclaves. On passe des esclaves de l'époque. Mais maintenant, on est passé aux esclavages. Certaines personnes, c'est pas parce qu'on nous donne un salaire. Mais on est aussi esclave d'une caste de super riches qui dirigent. Mais on est des esclaves, ces gens-là. Indirectement, on n'est pas comme à l'époque des Romains. Mais on est esclave de la même chose, maintenant.
Quelque part, je crois quand même qu'il n'y a plus d'esclaves.
Quand on dit qu'on est libre, on n'est pas forcément libre.
Ouais, mais il y a quand même pas mal d'esclavages modernes.
Voilà. Oui, mais d'un côté, Jésus, il est venu aussi pour libérer. libérer les captifs, donc ouais, je pense voilà. Ça comprend aussi les esclaves, juste, et puis qu'on ouais, n'aura ouais, qu'un seul maître, ouais. Vous ne direz pas Seigneur, enfin voilà.
Libérer les captifs,
donc, je ouais, pense c'est l'esclave. Ça répond quand même un peu... Je ne pense pas qu'ils souhaitent qu'il y ait des esclaves.
Bon, il y a encore des esclaves dans notre société actuelle. Hein. Oui, tu vas au Népal, ben, moi j'avais vu des camps d'esclaves.
Ces femmes de ménage, puis qu'ils les foutent dans un coin.
Non, mais non, mais vraiment, non, mais des statues d'esclaves.
Ah oui.
Véritablement. Ah non, mais véritablement.
Que ce soit les esclaves.
Ouais. Mais c'est encore. Oui, c'est une autre forme d'esclavage.
Oui, non, nous, c'est déguisé. On est esclavage déguisé. Vous avez la preuve d'esclavage, on va recevoir demain, ouvrez vos journaux, une immense volée d'augmentation des caisses maladie. Et ça ne suffit pas.
Ce qui c'est l'esclavage.
On nous oblige de passer, si on n'est pas aidé par l'État, parce qu'on a des revenus très très bas, et vas-y Kiki, la caste moyenne, on est en train de l'assassiner, et on y va. En y va, et attention, chaque année. Et puis, on n'est pas loin d'arrêter, ce qui paraît. Ils nous disent, hein, tous les politiciens, ceux qui sont dans les partis politiques et les gens qui nous dirigent, justement, ça rejoint un peu ça, tous les gens qui nous dirigent, taisez-vous, c'est comme ça et pas autrement.
Ouais,
parce qu'on doit trop payer les gens qui vont se soigner à l'étranger. Quand on ne châtelle en déficit, on doit payer l'hôpital de Saint-Imier, l'hôpital de Bienne et de Berne, parce qu'on doit leur payer. Alors, les caisses sont vides, on a des millions et millions de déficit. Hardi la glisse, on augmente et ça n'arrête plus. Et on est en train d'assassiner le peuple.
Mais le canton du CERN, c'est juste encore une parenthèse par rapport à ce que tu dis, a fait encore mieux parce que le peuple a refusé une augmentation d'impôts sous rotation et tout ça. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les gens qui ont des subsides de caisse maladie, tous les gens qui ont les subsides, ils devront les rembourser.
Ah oui, ça va pas.
Rembourser les subsides, tu te rends compte.
Les pauvres, ils avaient des subsides.
Ça, c'est de la dictature. Alors,
c'est pas de l'esclavage, ça. Ils doivent rembourser.
Je me suis aussi pas mal intéressé à l'économie. Alors, c'est sûr que quand vous regardez un petit peu avec du recul, vous voyez que le modèle néolibéral dans lequel on est, il est complètement dysfonctionnel. Il n'a jamais fonctionné, il ne fonctionnera jamais.
Qui ça ?
Le modèle néolibéral, le modèle économique dans lequel on est aujourd'hui, où on veut tout dérégulariser, où on veut l'enlever, la protection de l'État, ouvrir les frontières, soi-disant soutenir l'économie. Mais ouais, ça soutient surtout certaines personnes. Ce modèle-là n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Pourtant, c'est celui-ci qu'on nous prêche à longueur de journée.
Oui.
Donc, c'est de la grande manipulation. Et le but, c'est de semer le chaos.
C'est de soucier toujours
voilà.
Plus.
Donc, parce qu'en semant le chaos, il y a des gens qui profitent.
Qui profitent.
On va payer pour finir.
Mais vous savez, il n'y a que les Portugais qui sont magnifiques.
Ah.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous allez, il y a beaucoup de Français et de Suisses qui s'exilent au Portugal. Vous savez pourquoi ? Parce que les retraités, quand ils vont s'établir chez eux pendant 10 ans, ils ne payent plus d'impôts.
Ah, oui.
Alors ils les attirent. Plus d'impôts pendant 10 ans.
Bah, dis donc, si seulement payer plus d'impôts ici.
Ben voilà. Tu vois, il y aurait déjà 15 000 francs d'économie.
L'appartement, l'assurance, la VSL, ouais.
Après, on dit esclavage moderne.
Écoute, c'est
pas les anciens esclaves. Les esclaves.
C'est une autre forme, bien sûr.
Il faut aller à la poste et payer.
De toute façon, le prince de ce monde, on sait que c'est le diable. Donc,
il va
rebeller les choses sous un beau nom comme la démocratie.
Ah, voilà,
derrière la réalité, un peu plus difficile.
C'est une démocrature.
Donc c'est là, il faut soumettez-vous à ce genre-là.
Un rebelle, attention. Alors on va en débattre encore, je vous assure. Juste pour revenir au texte, parce qu'on parlait, il y a quand même ici là dans ce qu'on vient de lire, il y a quand même deux axes. Il y a l'axe professionnel entre guillemets, si on pourrait le dire dans des ça parle pas dans ces termes-là, mais dans des termes un peu plus actuels de ce qu'on vit par rapport aux serviteurs et aux maîtres. Et puis, il y a l'axe, entre guillemets, politique, entre le gouverneur et ceux qui sont soumis au gouverneur. Le verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, hein, etc. À cause du Seigneur. Hein. Donc c'est une soumission pour la cause de notre Dieu. Hein. Donc on le fait pas au nom des hommes. Si on est dans une attitude en premier lieu de soumission, mais ça ne veut pas dire non plus d'esclavagisme, hein, c'est à cause du Seigneur. C'est une attitude
de témoignage
voilà, d'un esprit plutôt pacifiste. Et puis, la sœur posait la question de la révolution. Moi, je pense qu'en effet, au moment où le chrétien prend les armes, est-il encore un chrétien ? Hein, il y a eu un temps dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, il n'y a pas si longtemps que ça, la théologie de la libération. Et cette théologie a amené que certaines personnes ont pris les armes. Ben, ça n'a pas forcément fini d'une manière très positive. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit prendre les armes au nom d'une cause ? Ben, moi, je ne crois pas, parce qu'on a d'autres armes que les armes physiques. Parce que ça veut dire qu'on y va avec la méthode du monde. Hein? Et nous, on a d'autres méthodes. Le Seigneur ne nous a pas appelés à combattre contre les hommes, mais à combattre contre les puissances spirituelles. Et moi, je ne vois pas au nom d'une cause un chrétien se lever et prendre les armes pour amener une révolution, un changement de pouvoir.
Moi, je te prends un exemple tout simple, juste pour la question qui se pose. C'est que, par exemple, au Nigeria, là où il y a Boko Haram, il y a des milliers, il y a des centaines de personnes qui sont tuées régulièrement. Puis là, bah, justement, tu as des pasteurs qui appellent à se protéger ou à se défendre. Là, on peut se poser la question. Alors oui, on a d'autres armes, mais les églises, elles sont décimées, elles sont
exterminées.
Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je dis pas que c'est juste, mais quelque part, s'ils se laissent faire, ils se font tuer. Et puis il y a plus personne. Ça veut dire quoi? Il y aura plus personne.
Toi, tu cites quoi? Boko Haram. Moi, je vais te citer
l'État
islamique. Qu'est-ce qu'ils ont comme but? C'est d'islamiser, rayer tous les chrétiens de la terre et islamiser le monde entier. Et pour ça, ils profitent de la démocratie pour pouvoir s'étendre. Alors, si les Américains ou les Français ou les Européens n'essayent pas de mettre des barrières, comme ils sont en train de faire maintenant en Syrie, en Irak, de partout, on les laisserait les mains libres. Mais ils feraient quoi?
Ils bousillent tout.
Tous les pays chrétiens, pas chrétiens, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la dénomination État islamique, avec la charia et tout ça, c'est quoi? Ils font un nettoyage, pas ethnique, mais mondial.
Et
mondial. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On est des chrétiens, on se fait tous ces
délais.
On fait quoi?
On se cache tous
dans les grottes.
On écoute Anna.
Parce que avec tout ça, ça me rappelle l'expérience d'un déporté russe dans les camps de Sibérie. Dans un des camps, il raconte comme ça, dans un des camps, tout le monde s'était soulevé. Parce que à cause de la nourriture ou je ne sais pas quoi, des conditions épouvantables, bien sûr, on peut s'imaginer, tout le camp s'était soulevé et les bulldozers sont arrivés. Donc évidemment, l'État a fait ce qu'il fallait, ils voulaient tout raser. Les chrétiens, bon, il y a toujours beaucoup de chrétiens dans ces camps, ils se sont mis à genoux. Et bien leur camp, il est resté debout à cause de la prière. Tous les autres camps ont été rasés, hein, ont été vraiment... Mais celui-là, il est resté debout. Et je me dis, si les chrétiens s'unissent pour la prière, le Seigneur intervient. Ça, j'en suis sûre. Mais il faut que les chrétiens s'unissent, hein, ça c'est sûr. Donc, il y a une arme.
Tu crois qu'ils ne prient pas? Les chrétiens en Afrique, non. Tu crois qu'ils ne prient pas?
Mais
ils ne soignent rien.
Oui, mais ça, c'est le mystère du Seigneur, dans le sens aussi. C'est ce que nous enseigne l'Épître aux Hébreux. C'est que certains, par la foi, ils ont été vainqueurs, alors que d'autres, ils ont été massacrés.
Ils ont été bien, voilà.
C'est ça que mais on ne peut pas faire une généralité, disons.
Non, mais le choix, il appartient au Seigneur. Oui, pardon.
Moi, je suis sûre que si les chrétiens prient, s'unissent, le Seigneur les protège. Alors ça,
ou tu peux partir en martyr.
C'est ça qu'il faut rajouter. Ça,
mais ça, ça, ça appartient au Seigneur, c'est voilà, le mystère du Seigneur.
Ouais,
et puis, je voulais rajouter quelque chose, maintenant j'ai la pensée qui m'échappe. Par rapport à une résistance armée, c'est autre chose. Bon, voilà, la personne qui va résister, qui va s'opposer à un mal, c'est autre chose que défendre une cause, hein, oui. Déjà, oui, alors, non, déjà mais là. Mais après, si tu prends du recul sur pratiquement tous les conflits et tu vois les enjeux un peu qui sont en arrière, ben tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre? Parce que c'est nourrir la bête quelque part. Et puis ça va au final servir toujours les plus puissants de ce monde. Hein. Donc l'État islamique actuellement n'a pas le vent en poupe. Hein, et puis il va bien certainement bientôt disparaître. Maintenant, il y a tous ces petits espions et ces militaires qui sont en Europe et dans d'autres pays.
Attention, c'est une toile d'araignée terrible. L'État islamique, c'est pas parce que les Américains, puis les dire une chose. C'est que, bien sûr, ils ont éradiqué, il y a Mossoul, etc. Mmh. Mais ça résout pas les problèmes.
Les islamistes, il y en a d'autres, ils prendront d'autres formes.
Avec les chiites, avec les sunnites.
Bien sûr.
Au niveau de l'Europe, ce qu'il faut savoir, parce que je me suis bien documenté moi là-dedans avec l'islamisme, et même des chrétiens écrivent là-dessus, il y a Daniel, je ne sais plus comment là, qui est son nom d'encre, enfin bref. Ce qui se passe, c'est que on a laissé trop faire depuis très longtemps, et puis maintenant dans les mosquées on prêche la haine et on a même peur de condamner les imams qui sont pas des imams qui ont été fabriqués chez nous, etc., mais qui viennent d'Arabie Saoudite. On les a laissé faire à un tel point que maintenant on n'ose même plus les condamner. Il y a même la police, ils ont posé la question à Berne parce qu'il y a eu un incident justement où ils prêchaient la haine dans le pays où ils sont, quoi, j'entends. Ils montent en épingle tous les musulmans dits modérés, entre guillemets, mais qui ne deviennent pas modérés, parce que finalement, on les met tellement sous un joug de l'islamisme, que finalement, ils se font peut-être même battre dans la synagogue, dans la mosquée, pardon. Avec ça, il y a plein de gens qui sont acquis à cette cause-là, hein, qui se continuent. Du reste, les Corans qui sont distribués en Allemagne, ils ont voté une interdiction en Suisse allemande. Ils ont dit certaines villes, notamment, je crois, Zurich, qu'il fallait interdire les Corans à but de créer justement des gens pour le djihad, quoi. Donc on est quand même sur une poudrière. Ce que je voulais dire par rapport à ce policier qui avait dit non, on peut pas, parce qu'on n'a pas assez de preuves, etc., puis c'est pas parce qu'on entend un truc, enfin, ils ont tout fait pour dire que c'était pas possible de condamner ce gars. Et puis, juste après, ils ont interviewé une femme musulmane, mais qui milite justement contre ces aveuglements des Européens qu'on a. Ah, oui. Et elle a simplement dit, le journaliste a posé la question, mais vous pensez, alors que ce policier, elle a entendu, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a dit, ils ont peur. Mm. Et c'est une musulmane qui a dit ça. Mm. Donc on a des autorités qui ont peur des musulmans actuellement, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Allemagne, etc. Ils ont peur, ils les laissent faire. Et eux, ils sont tout contents. Et c'est tout sournois. C'est tout sous le...
C'est la démocratie qui les autorise.
C'est sous le menton. Oui, mais parce que... Alors que moi, je disais que l'État islamique est gentil, il n'y a pas le vent en poupe, ça ne veut pas dire que l'islamisme, le problème est résolu. Hein, ce n'est pas ça. Il y aura une continuité. Et puis, c'est pour ça que quand tu veux prendre les armes pour lutter contre quelque chose, en tant que chrétien, moi, je ne le ferai pas. Parce que le problème va ressurgir ailleurs. Et puis, ce sera sans fin. Alors que nous, je crois qu'en tant que chrétiens, on doit supporter une part de souffrance. Hein. C'est comme le Seigneur lui-même a souffert. Hein. Supporter la souffrance lorsque... lorsqu'on fait le bien. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie chrétienne. Et bon, pas partir trop dans le domaine de la politique, mais je vous parlais avant du modèle économique néolibéral qui est fait pour créer du chaos. Ben aujourd'hui, la politique d'ouverture, c'est une politique faite aussi pour créer du chaos, hein, dans un but quand même sur le plus ou moins long terme. Ça c'est ma vision. C'est d'amener toujours plus de contrôle, hein, au nom de la sécurité, et puis tout le monde sera fliqué pour finir, hein. Et puis la puce, un emballage terminal.
Il y en a qui en ont déjà, il semblerait qu'ils en mettent déjà en Suède. Des puces dans la main, sur le câble.
Alors, si on revient un peu là encore à nos textes bibliques, mais c'est énorme, on n'était pas dehors du sujet. Hein. À toute autorité, hein, on doit une soumission à toute autorité. Là, le grec, à toute autorité, il peut avoir vraiment le sens figé, hein, toute autorité, voilà, fini. Mais aussi, il peut avoir un sens, il peut avoir une pensée qui touche pas simplement pour tout individu, mais un sens plus général, hein, c'est-à-dire autrement, une soumission ce n'est pas une soumission à toute personne qui a une position d'autorité, mais plutôt une soumission aux différentes formes d'autorité. Je vais revenir là-dessus. Hein. Ici, le tout, ça veut dire pas pour chaque individu qui a une position d'autorité, tu dois te soumettre et te taire. Hein. Mais à toute autorité, c'est-à-dire à toutes les formes d'autorité, qu'elles soient politiques, qu'elles soient juridiques, qu'elle soit professionnelle, de ton village. Hein. En tant que chrétien, le Seigneur n'est pas contre l'autorité. Nous, en tant que chrétien, on doit se soumettre à toutes les formes d'autorité. Tu ne peux pas dire, ah ben moi, je me soumets que à ce qui est politique, et puis ce qui est de l'ordre, de l'autorité de mon village, avec ce syndic qui m'énerve, qui ne veut jamais de mes projets. Je suis au-dessus de lui, au nom du Seigneur, amen. vous comprenez la nuance. Le grec permet cette nuance ici par rapport à toute autorité, cette nuance-là, que c'est vraiment une soumission aux différentes sphères d'autorité et pas à toute personne. Hein. Donc ça permet aussi déjà un petit regard critique par rapport... par rapport aux autorités, hein. Soit au roi, soit au gouverneur. Donc nous devons pas marcher dans l'anarchie, mais être des artisans de paix dans cette société. Les versets 15 à 17 encore, on peut voir que c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, on va réduire au silence les hommes ignorants et insensés, hein. Donc c'est pas en prenant les armes. Ma foi, oui, moi je ne vais pas forcément répondre au cas extrême où tu as un taliban qui arrive ici et qui veut flinguer ta famille, qu'est-ce que tu fais, hein? Là, je pense que, on a aussi le droit de se défendre. Étant libre, sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais on est appelé à agir comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. En pratiquant le bien. Donc, en premier lieu, on est appelé à pratiquer le bien. Hein. C'est une voie quelque part quand même différente de ce monde, que face aux injustices, on est appelé à pratiquer le bien. Je pense que Dieu peut, au travers de cela, ouvrir des portes complètement différentes. J'avais entendu aussi un témoignage d'une personne qui avait connu les camps de concentration nazis. Et puis, la personne a vraiment eu une attitude complètement différente que de se faire justice elle-même, jusqu'au jour où elle a pu, une fois, bien après la guerre, aller rendre visite à celui qui était le directeur.
C'est Corentin Boom.
Voilà, ouais.
Corentin Boom.
Non. Comment tu dis?
Corentin Boom.
Corentin Boom. À Ravensbrück.
C'était à Ravensbrück.
C'est possible. C'était un homme?
Non.
Non, c'est un homme. C'est encore une autre personne. Et puis, qui, voilà, hein, qui a pu avoir la possibilité d'aller parler à cet homme, peut-être 20 ans après les cœurs, parce qu'il a pu, il avait pu retrouver. Oui, voilà. Voilà, merci. Ouais. Ouais. Donc, bon, moi, je ne sais pas, hein, dans des situations comme celle-ci, comment je me comporte.
C'est ça qu'il faut se dire. Ouais.
C'est que pas leur place, c'est facile de discuter, non, mais ouais, on n'est pas sur le cas.
On n'est pas sur le cas.
Parce qu'on a des attirances, on a des trucs, on se dit, ouais, c'est quand même scandaleux, mais on n'est pas. Ouais. C'est facile à dire. Tant qu'on n'y est pas.
Ouais, c'est pour ça que je dis.
C'est pour ça que c'est difficile. Moi, je crois, c'est comme quand il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais au moment venu, l'esprit vous poussera à répondre ou à agir. On agira peut-être tout autrement qu'on pense maintenant.
Ouais, parce qu'il faut voir l'intervention de Dieu à un moment, au moment précis.
Voilà.
C'est comme quand Néhémie demande, avant d'aller devant le roi, il fait une prière à Dieu, dis-moi ce que je dois lui dire.
Ouais.
Il se met directement devant Dieu pour lui, qu'il parle au travers de lui, quoi.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour l'instant, et puis c'est quand même ce qui modèle notre vie de foi, on est dans ce que Paul appelle la dispensation de la grâce. On est dans ce temps de la grâce. Et bientôt viendra le temps du jugement des nations, ça sera un temps complètement différent. Mais on est dans ce temps de la grâce et on est appelé à faire grâce. Hein. Pardonnez à vos ennemis. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est un mystère. Dieu a décidé pour l'instant qu'on était dans le temps de la grâce. Et ça va quand même nous donner une ligne de conduite. En tout cas, on peut juste lire, là après on revient sur le texte biblique, un passage dans l'évangile, il faut que je le retrouve, l'évangile de Luc, où il y a cette idée aussi, par rapport à la justice divine et la grâce divine. Luc 18, les versets 7 et 8. Luc 18. C'est l'histoire de la veuve persévérante, hein, qui va demander à un juge qui ne veut pas l'écouter. Et puis pour finir, vu que cette veuve y va tellement souvent, il en a marre le juge et puis il lui répond à sa requête. Le Seigneur ajouta, je lis au verset 6, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Hein? Donc, Dieu, il entend nos cris, il entend nos prières. Quand on traverse une situation d'injustice, il entend nos prières. On doit aller auprès de lui, hein? Y retourner même. Est-ce qu'il tardera à notre égard? Jésus nous dit, il nous fera promptement justice. Mais promptement...
C'est ça peut-être. Dire tout de suite. Quand il aura décidé lui.
Ben oui.
Quand il aura décidé lui. Donc on peut attendre 1000 ans encore. Non, hein,
non, non. Ah ben non, ça, j'espère que ça ne va pas mettre autant. Mais parce que, écoutez ce que dit le Seigneur, mais quand le Fils de l'homme viendra.
Hein, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre?
Trouvera-t-il voilà. De la foi sur la terre?
Voilà, justement, ça m'a souvent interpellé, ça, ce passage. Tu es en train de m'enlever ce que je devais dire le mercredi au conseil avec ce passage. Voilà, c'est justement ce passage. Hein.
Ça dit bien que la foi, elle est là, elle est aussi dans un contexte de d'injustice et de persécution.
Ouais, exactement.
Hein. Et puis,
parce que la foi nous donne la persévérance, la souffrance, la persévérance, enfin tout ça. Quoi. Il y a plusieurs étapes.
Ouais. Alors, oui, Dieu nous dit clairement, il nous fera promptement justice. Hein. Mais c'est là qu'on voit que le temps de l'homme et le temps de Dieu, des fois, il y a un décalage.
Voilà, justement.
Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous fera jamais justice ici-bas. Hein. Dieu va des fois agir ou pas.
Ouais, ouais.
Et puis, ça, c'est un mystère. Il y a des sujets, t'as beau te débattre dans la prière, Dieu ne répond pas.
Pas ben.
Mais pourquoi, Seigneur?
C'est comme les guérisons, pas les guérisons.
Voilà.
C'est tout quand même, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et puis, et ben, parce que tu parles de maladie, je profite de rebondir sur, un, sur, sur, sur l'épître de Pierre, là. Il faut juste que je retrouve ce passage. C'est où? Voilà, c'est à la fin du verset 24, parce que c'est un verset qu'on va souvent citer par rapport aux maladies. Hein. Lui par les, bah, je lis juste, lui qui a porté, je lis tout le verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Hein. On va souvent citer ce verset, donc on est dans le chapitre là qu'on étudie, de Pierre, hein, 2, verset 24, on l'a lu avant, pour dire, voilà, dans le Seigneur, parce qu'il a porté les meurtrissures à notre place, nous avons la guérison.
Oui, mais ce n'est pas dit quelle guérison.
Ben voilà. Et puis là, on voit...
C'est d'abord la guérison du péché.
C'est ouais. Du péché et puis de l'injustice, voilà, de tout ce qu'on va subir en tant que chrétien, en tant que personne qui veut suivre fidèlement le Seigneur. Et ben voilà, hein, là on voit que ce passage-là, on le tord un peu. Parce qu'on dit, ah ben oui, mais bon, je ne dis pas que c'est une hérésie. Mais quand même, en même temps, il y a un petit problème quand on lance ce verset par rapport aux maladies. Comme si à cause des meurtrissures du Seigneur, on allait avoir la guérison. Ben non, c'est pas seulement une guérison physique, hein, mais il nous est parlé du péché. Et puis, il nous est parlé, en fait, de pouvoir résister au mal, hein, suivre la voie du Seigneur. Est-ce que le Fils de l'homme va trouver de la foi? C'est une question pour chacun d'entre nous. Par rapport aux injustices, par rapport aux souffrances qu'on traverse, par rapport au temps difficile qu'on peut vivre, on peut s'en remettre à Dieu. Et on sait, c'est sa parole, il agira promptement. C'est écrit, désolé. Donc, il faut que nous, on se mette au temps du Seigneur. Parce qu'on est des fois loin de la pensée de Dieu. On est loin de la pensée de Dieu parce qu'on oublie tout ce qui vient par la suite. Parce que Jésus a fait la promesse de revenir. Et puis, quand il reviendra, ben, on va rentrer. Alors là, le temps de la grâce, ce sera fini. On va rentrer dans une époque complètement différente. Et voilà, on doit se rappeler de ces promesses-là du Seigneur. Hein. Souvent, moi, je reviens un peu sur ce sujet-là. Parce que le promptement, alors, il prend tout son sens. Parce que sur cette terre, comme disait Pierre, nous ne sommes que des pèlerins et des voyageurs. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Et on n'est pas appelé à vouloir, par nos propres forces, par nos armes, hériter cette terre. Jésus va dire, c'est les débonnaires qui hériteront de la terre. C'est quelque chose de complètement à l'opposé du monde où l'homme veut se défendre pour sa terre.
J'aime bien ce mot débonnaire parce que l'interprétation du Larousse, c'est bon jusqu'à la faiblesse. Mmh. Ouais. C'est énorme, hein? C'est énorme.
Ouais. Mais faiblesse, bien pas la dire, pensée du monde.
De courage, entendons-nous. Hein? C'est pas du tout ou poltron ou je sais pas quoi. C'est vraiment, c'est pas facile
à définir.
C'est pas
manque
de courage. C'est pas une question de courage. Hein? C'est vraiment.
Oui, jusqu'à faiblesse. Alors ça serait interprété
ouais,
par
ça,
quoi
ça,
faiblesse?
Ça fait
alors
bien une définition. C'est là que tu vois qu'on considère quelqu'un qui est tellement gentil, presque jusqu'en être voilà faible, ça n'a pas une bonne connotation.
Ah non, dans le monde pas.
Dans le monde pas.
Non, ouais. Dans Dieu, le monde, on dit bête, voilà. Bon, ça commence par la même lettre.
Parce que pour Dieu, ce ne serait pas jusqu'à la faiblesse, au contraire.
Mais c'est la même chose que chapitre 13 de Corinthiens.
C'est une faiblesse mesurée, ce n'est pas une faiblesse béate, je veux dire, ce n'est pas une faiblesse, attention, hein. On voit dans le mot faiblesse, tu te fais avoir.
Mais ouais, voilà. Mais non, parce que tu te fais manipuler. C'est pas si tu es faible, tu te fais manipuler automatiquement.
C'est une autre faiblesse. C'est une autre faiblesse. Ouais, c'est une faiblesse.
Mais c'est comme un Corinthiens 13. Voilà. L'amour supporte tout. Voilà. Puis là, on se dit, ben, on peut pas tout supporter. Voilà. Mais oui, il ne soupçonne même pas le mal. Voilà. Ouais. Puis quand même, c'est machin, ce qu'il est tordu. Mais tu ne dois même pas soupçonner ça. Mais il ne va pas pouvoir se convertir, ce n'est pas possible. Mais même ça, tu ne dois pas
le penser. Et si tu es bon, et tu es rebond, et tu es rebond jusqu'à la faiblesse, tu finis par te faire manipuler. Alors quand est-ce que tu vas arrêter de te faire manipuler? Alors, c'est en tournant rond.
Alors,
comme là-bas,
tu rigoles, mais c'est la vérité.
Non, hein. Non, mais...
Dans la vie pratique, celui qui ne le vit pas, tant mieux pour lui. Mais celui qui le vit, et je te garantis, c'est pareil.
Oui, mais comme disait Pierre, ce n'est pas forcément la faiblesse. Non, c'est pas qu'il disait, ce n'est pas la faiblesse comme on se l'imagine.
Comment on se l'imagine.
Parce que, alors moi, ça me fait penser à Nietzsche, qui le philosophe Nietzsche. Le philosophe Nietzsche qui disait, mais il ne pouvait pas supporter le christianisme, parce que pour lui, le christianisme, c'était l'éloge de la faiblesse. Et puis Nietzsche, c'est une personne qui va être un des philosophes qui va influencer le nazisme, hein, parce qu'il voulait le surhomme. Donc là, on vire dans l'autre opposé. Mais la faiblesse, c'est accepter qu'on n'est pas tout puissant, c'est accepter que parfois, on va se faire dépouiller, que parfois on va nous faire injustice. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se faire dépouiller pour se faire dépouiller.
Voilà.
Hein, c'est
voilà,
pas ça.
Ça c'est
mais on n'est pas là pour prendre les armes. On est là pour tendre l'autre joue, hein, comme j'avais prêché là, le dimanche d'avant. Mais tendre l'autre joue, c'est chercher à garder un lien de paix avec celui qui nous agresse. Autant que cela dépende de vous, soyez réconciliés avec tout le monde. On doit être dans une attitude de réconciliation, mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se protéger et puis se préserver dans certaines situations.
Ça ne veut pas dire être... manquer de courage ou de détermination dans certains cas, mais c'est d'être bon dans la faiblesse, dans des cas bien, dans des cas précis, pas dans des cas pas tout le temps, j'entends, pas dans tous les cas.
Le problème faiblesse, ça veut dire quoi? En gros, le point d'interrogation, il est là, ça veut dire quoi faiblesse alors?
Il faut l'interpréter.
Voilà, il faut l'interpréter comment? Comment il faut l'interpréter? Comment c'est, il faut l'interpréter, ce terme faiblesse? Comment tu peux l'interpréter?
Il faut voir dans la concordance biblique, qu'est-ce qui marque? Parce que c'est la même chose que le dictionnaire biblique, pardon.
Ah, c'est pas comme le dictionnaire.
La Rousse, c'est pas les mêmes définitions.
La Rousse, c'est pas la même
chose. Bien sûr, parce que pour le monde,
c'est extrêmement bon.
Biblique.
Extrêmement bon, mais pas dans toutes les situations.
Parce qu'il y a une autre signification.
On pourrait y arriver.
Extrêmement bon quand on voit que quand on doit l'être, quoi, je veux dire, c'est pas être bon, être bonbon. Voilà.
Comment l'interpréter ce terme bonbon? Très bon, très bon, bonbon. Comment tu vas l'interpréter au mieux de ta conscience? Comment l'interpréter, ça? Elle est bien bonne, celle-là. On le dit avec la bouche, mais en pratique, on fait quoi?
Mais
on fait quoi en pratique?
Je crois que le mieux, ce serait alors se mettre à genoux au Seigneur, qu'est-ce que tu veux?
Voilà, chercher la pensée du
Dieu. Et que Dieu nous éclaire par son esprit.
Parce que la Bible dit quand même qu'on doit être bon, qu'on doit être généreux. Mm-hmm. Bon, bien sûr qu'il y en a qui profitent, mais alors là, il faudrait avoir l'esprit de Dieu et puis savoir ce qu'il faut faire.
Prier, demander que Dieu nous éclaire par son esprit, quoi.
Lui,
parce que lui, il peut aussi nous dire, halt, stop, ça aussi.
Bien sûr.
Il peut aussi nous
même
dire,
dans la bonté, Dieu nous recommande de faire.
Mais il faut voir. Hein,
même dans la bonté qu'il nous recommande de faire, il peut nous dire stop jusqu'à là et pas au-delà. Il peut nous dire ça.
Dans certaines situations, oui.
La signification.
Moi, je crois.
Gentillesse d'esprit, douceur. La douceur envers Dieu, cette disposition d'esprit par laquelle nous acceptons. Donc, douceur aussi, tu vois.
Débonnaire.
Présente le débonnaire sous un jour péjoratif. Ouais. Est un être faible, minable, insignifiant. Donc ça, c'est de la pensée du monde, puis la parole de Dieu. Ah ouais, maintenant. Une attitude marquée par l'humilité, la douceur et la bonté. C'est le propre d'un être effacé qui ne cherche pas à se mettre en évidence, qui n'insiste pas sur ses droits. Ce n'est pas ainsi que les hommes ont parlé. Ils présentent le débonnaire sous un jour péjoratif, disant que le débonnaire est un être faible, minable, insignifiant. Non, tout le contraire. La parole de Dieu, au contraire, la dépeint comme étant une vertu hautement estimable. C'est long.
Moi, ça me fait penser que dans certaines situations, c'est Dieu qui va prendre notre défense. Et puis, dans certaines situations, des fois, on a meilleur temps de garder le silence, parce que si on veut se défendre soi-même, on rajoute de l'huile sur le feu. Mais Dieu est notre justice. Et puis, dans certaines situations, bah, des fois, on doit couper les liens aussi. On doit passer à autre chose. Hein. On peut penser, dans le cadre professionnel, peut-être à un moment donné, on sent que voilà, le temps est accompli et puis on doit chercher un nouveau poste professionnel, par exemple. Hein. On ne va pas rester bon jusqu'à en faire une crise cardiaque pour glorifier le Seigneur. Hein. C'est pas ça.
Ça dépend des circonstances. Moi, j'ai une expérience personnelle, justement, de mobbing dans le travail pendant plusieurs années avec un agent général. Mais j'étais encore ma femme m'avait quitté, c'est juste pour un peu situer le problème. Et puis, y avait tout qui allait de travers, le travail n'allait pas, la vie privée, c'était la catastrophe. Et puis, je devais naviguer là-dedans, puis j'avais des pensions à payer faramineuses tout à coup, qui sont arrivées. Et puis, avec ça, la situation, elle était pas drôle. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je pouvais pas. Alors, soit je faisais une déprime, une grosse déprime. Je pense que j'en ai fait une, mais qui était larvée parce que je fonctionnais quand même dans mon travail. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, soit le Seigneur nous aide à résister justement dans des situations comme ça, ce qui a été le cas pour moi, merveilleusement bien. C'est-à-dire qu'il m'a permis de garder mon travail et de supporter les vicissitudes d'un gars qui voulait ta peau, carrément.
D'un maître pervers.
Ouais, si on peut dire ça. Ouais.
Soit tu fuyais. Ouais. Il y avait deux solutions. Comme tu viens de dire, toi, si ça ne va pas, je ne veux pas tomber de dépression. Tu quittes mon patron pour aller ailleurs. Lui, il a fait le contraire.
Tu vois, oui, non, oui. Bah ouais, c'est ce que disait la sœur Anna. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu.
Voilà, c'est ça. Et puis la force a été donnée par le Seigneur. Et là, dans ce cas-là, je suis sûr que j'étais vraiment autrement, mais mon père même, qui était un dur des durs, il me dit, je ne sais pas ce que tu fais pour supporter ce que tu supportes. Donc, et ce n'est pas moi qui le supportais, c'est par la grâce de Dieu, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà, excusez-moi.
On est de toute façon bien dans le sujet. Hein. Jésus, hein, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça, c'est le verset 23. Donc
il faisait confiance au Seigneur, au Père.
Voilà,
au
Père. Voilà. Des bonheurs, ça ne s'occupe pas de soi, la clé.
Son avenir et sa vie, tout entre les mains du Père.
C'est parce qu'on devrait que
c'est Dieu qui va s'occuper, justement.
Mais ce qui nous fait difficulté à nous, c'est qu'on est toujours axé sur nous.
Ouais,
c'est ça.
Parce que sur la terre, c'est quoi? C'est ça, hein, parce que si tu ne fais pas comme ça, mais tu es balayé, c'est rien la tempête qui est au Caraïbe.
Mais ouais,
c'est pas 300 km/h.
C'est notre nature.
Tu te laisses emporter, c'est fini.
C'est notre nature. Et Dieu nous donne une autre nature. Il veut qu'on. C'est ça qu'on a de la peine. On a cette dualité.
C'est un combat.
C'est un combat continuel.
C'est un combat continuel qu'on
croit que la vieille nature, on la met dessous, elle remonte à toute vitesse.
Elle sait très bien nager.
C'est ça, c'est le moi.
C'est un sacré nageur, hein, celui-là, il ressort. Hein,
c'est ce qu'il nous dit, on doit être mort.
Ah oui, alors on va mourir hein, comme ça, facilement.
Mais c'est ce qu'on doit faire, puis c'est ce qu'on ne peut pas faire.
Parce qu'on
le fait de nous-mêmes.
Et puis rappelons-nous.
Tu ne peux pas jouer au mort comme ça facilement. Tu es vivant.
Et puis rappelons-nous que c'est Pierre qui a écrit cette épître, lui qui était un sang chaud. Hein.
Ouais, voilà, en plus. Donc, il est appelé fils du tonnerre parce que.
il avait fait du chemin. Hein. Il va dire là au verset 19, car c'est une grâce de supporter des afflictions. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ce n'est pas la pensée du monde.
Il a quand même vécu dans la prison. Dans la prison, là, les portes se sont ouvertes aussi. Il a vécu des choses extraordinaires quand même. Hein, ce qui a aussi, il a aussi souffert. Hein,
On va perdre tout le temps quand on mourra soi-même. C'est des mots, mais le faire pour véritable, c'est autre chose. C'est tout un apprentissage, puis il nous faut toute notre vie pour ça. J'ai bien l'impression.
C'est pour ça qu'il ne répond pas tout de suite.
Mais ce qui se passe aussi, c'est que dans certaines circonstances, justement, c'est ce que tu dis exactement, qu'on ne pense qu'à nous, puis on ne voit pas le Seigneur dans certains cas, mais et qu'il peut tout à coup, dans une situation bien précise, nous donner tout de suite une direction qui vient directement de lui, alors qu'on n'était pas dans cette direction-là. Ouais. Ouais.
Non, c'est pour ça, puis peut-être je terminerai là-dessus parce que l'heure a déjà avancé. Soyez soumis à la montre.
Oui, moi, j'ai pas de montre.
On est en Suisse, attention.
Donc, c'est quand même des versets ici à savoir hein, que, par exemple, aux États-Unis, quand il y avait encore les Noirs qui étaient sous un régime vraiment d'esclavagisme, hein, il y avait des pasteurs blancs qui allaient leur prêcher ça, hein, et esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Et puis voilà. Alors, c'est clair que si, comme je l'ai dit dès le début, si on prend ce texte comme ça de manière radicale, on est juste bon à être de la chair à canon, que sais-je encore. Mais Dieu va nous donner aussi, dans certaines circonstances, de la sagesse aussi pour prendre la direction qui est la sienne. On n'a pas à s'inquiéter, le Seigneur, il entend nos cris. On sait qu'un jour, il nous rendra pleinement justice. Et puis, ça ne veut pas dire qu'ici-bas, on va jamais vivre quelque chose en notre faveur, hein, dans une situation d'injustice. Mais on ne doit pas faire justice nous-mêmes. On doit s'en remettre au Seigneur. Et puis, lui, il va nous donner sa pensée, il va nous donner sa direction. Et qu'on puisse... Je crois aussi... C'est une force que nous, on peut avoir en tant que chrétiens. C'est qu'on sait qu'on peut prendre quand même une certaine distance. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas affligé, pas affecté, mais quand même une certaine distance aux injustices qu'on subit, parce qu'on n'est que des étrangers, on n'est que de passage ici. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser dépouiller par tout le monde, ce n'est pas ça. Hein. Mais on n'est que des étrangers, on n'est que des gens de passage. Et puis, c'est pas pour rien que Pierre enseignait là-dessus, sur ce sujet-là, l'Église, pour faire face à la persécution, hein, pour que les gens puissent rester centrés sur le Seigneur. Parce que s'ils avaient une théologie que Dieu allait intervenir à tout instant, à tout moment, dès le Amen terminé, c'est sûr que cette foi-là, elle n'allait pas endurer et persévérer dans la persécution. Et on a quand même des témoignages de génération en génération de gens qui nous ont précédés, qui ont traversé la persécution, hein, et qui ont gardé la foi. Et voilà, hein, ça, je crois que c'est l'essentiel, c'est garder la foi, même dans les temps difficiles, même si on ne voit pas le résultat de notre foi. On a plein d'exemples bibliques où les gens n'ont pas vu le résultat de leur foi. Et nous, on verra.
Je pense donc à Marie Durand, qui a vécu dans la tour des Morts pendant 30 ans, je crois. Même plus, 30 ou 40 ans, je crois. Elle est sortie, elle avait 60, 70 ans, je ne sais pas quel âge elle avait. Elle est arrivée à 20 ans dans cette prison. Ça, c'est quand même dingue. Hein. Ça, c'est vraiment la foi. Hein. Alors qu'elle aurait pu dire un mot, puis elle était dehors. Hein. Ouais. C'est
possible. Alors que le Seigneur nous donne sa pensée et puis son caractère. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Hein. Il y a une idée de la justice, hein, parce que l'amour aussi, l'amour supporte tout, hein, mais l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Hein. Donc la justice divine, il ne faut pas oublier, elle reste. Contre vents et marées, la justice divine, elle est là. Et puis, c'est aussi notre espérance.
L'intervention, je pense, de Dieu, pour nous, en tant que chrétiens, il me semble, bon, j'ai peut-être vécu certaines circonstances comme ça, on la voit consciemment ou inconsciemment. Parce que des fois, sans s'en rendre compte, sans qu'on soit conscient, Dieu, il intervient dans nos vies et dans les circonstances. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est avec du recul qu'après, on peut... dire, ah tiens, voilà, la main de Dieu a agi là. Mais au moment même, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Alors que ça soit conscient ou inconsciemment, Dieu agit pour ses enfants. Il me semble, à mon avis, ça peut avoir aussi son importance pour ne pas se décourager, de dire, moi je ne vois rien, je ne vois rien venir. Je prie depuis des années.
C'est en général Anne qui dit ça. Ouais,
c'est...
Anne, ne vois-tu rien venir?
Ah ouais, non, mais ça, c'est Barbe Bleue. Barbe Bleue, c'était ça. C'est pas la même chose.
C'est pas sur Anna. Hein,
j'ai pas dit Anna. Hein. J'ai dit Anne.
Bon, voilà, ce sera le mot de la fin, bien spirituel.